souvenir de la déclaration d'intention. Il se trouve qu'on est retombé dessus un peu par hasard, je crois, dans les papiers officiels. Et en fait, c'est donc un papier, ça sera important que vous le fassiez vraiment en profondeur. Quoi. C'est pas un papier administratif.
Ouais,
c'est un papier qui vous aidera à vous remettre devant votre projet quand vous serez en difficulté.
De manière posée. Et
effectivement... donc, tu ne fais pas monter plus, là ?
Si, mais c'est en cours. Hein. C'est ça, mon papier. Hein.
Ah, bon.
et en fait, par rapport à... Je me souviens plus du nom de la.
C'est le RAID.
Oui, mais il y a un nom bien.
C'est l'adaptation. C'est ça l'autre nom. Bon, pas un RAID, vous comprenez ce que j'ai qu'un RAID. Hein.
Et donc, dans le projet que vous avez.
Avec Léo Débat, mais vous êtes encore dit.
Que vous allez établir.
Encore dit par le sacrement.
Que vous allez établir l'un et l'autre, ce ne sera pas un projet qui sera parfait, ce sera un projet authentique. Et que, en fait, effectivement, quand Sophie parle de revoir quel a été notre projet, et bien c'est qu'en permanence, on va le faire évoluer. En permanence, il va s'adapter. En permanence, suivant telle situation, telle autre situation, sur des orientations qui sont des objectifs.
On ne va pas changer
d'orientation à tout craint, parce que tout d'un coup, le vent souffle un peu différemment. Mais vraiment, on a une orientation qui est donnée et on va faire des adaptations. Donc, on va peaufiner le projet au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, dans le mariage.
Vous voyez ce que j'ai dit. Et puis après, on va aller jusqu'à 10 ans moins le quart. Et puis après, ça sera à vous de parler. C'est-à-dire que pour que vous puissiez dire, ça, même moins 20, parce que vous êtes nombreux, ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, ou qui m'a marqué, ou qui m'a déplu, ou qui m'interroge, ou voilà. Oui, tu veux dire quelque chose.
J'ai une petite question. En fait, il avait posé un sujet qui était assez intéressant, je trouve.
Sur le RAID.
Non, celui qui a. Je suis un peu moins bien avec le mouvement. Et oui. Je crois qu'on l'a pas encore abordé, donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça sera.
Alors, le sujet que tu avais dit, c'était. On pourra peut-être pas tout faire. C'était. Attends, je reprends la feuille. C'est sur le carcan.
Oui.
C'est ça, c'est sur le carcan, ce que tu veux dire. C'est pour ça que je vous invite à lire les deux bouquins de Sémène. C'est parce que c'est tellement magnifique sur le plaisir et sur le fait que la communion nous met dans une plénitude de l'amour et que le plaisir sexuel a une place très importante dans la vie charnelle. C'est pour ça que je vous ai proposé ces deux livres, parce que on n'arrivera pas à aller. Ce qui est vrai, c'est que ce que dit l'Église dans ce cas.
Ce que l'on peut dire par rapport au carcan, ce que l'on essaye de vous transmettre, peut-être en vous bassinant un maximum, par rapport à cette expérience de couple, par rapport à ces adaptations au projet que l'on forme au départ, le couple se forge vraiment un. On va dire un carcan, mais a vraiment son identité propre. Et par rapport au carcan, j'entends le carcan de l'Église, j'entends le carcan.
Oui, c'est ça.
Par rapport à cela, le couple tel qu'il est se construit au fur et à mesure et de plus en plus fort, et voit pour le fait d'être encordés l'un l'autre et puis d'aller vers la lumière, et peut voir aussi ce que propose l'Église. Il le verra d'un œil complètement différent dans l'expérience, dans son expérience propre par rapport à ce qu'il vit.
Alors, ce que dit l'Église, entre autres, sur la contraception, puisque c'est un des sujets qui a scandalisé en 61 tous les chrétiens que l'arrivée de la pilule. Ce que dit l'Église, c'est que c'est important de ne pas séparer l'union sexuelle de la procréation. En tout cas, il faut quand même que vous ayez conscience que la pilule, l'implant, les patchs, donc tout ce qui est des contraceptions hormonales, ont quand même, ne sont pas neutres pour la santé, ne sont pas neutres pour le psychisme. C'est-à-dire qu'en fait, on leurre le corps en lui donnant l'impression que la femme est enceinte tout le temps. Et du coup, la femme n'a plus... On avait quand même remarqué que la libido était maximale au moment de l'ovulation. Et la femme, elle prend un espèce de tempérament d'homme. Alors certes, elle n'a plus les sautes d'humeur dont parlent les hommes liés à son cycle. mais elle perd quelque chose de la grâce de sa féminité. Or, une des grâces de la féminité de la femme, c'est l'intériorité, c'est les émotions, c'est la vie intérieure. C'est d'ailleurs dans sa fonction par rapport aux enfants, l'homme en général est chargé de aller plus haut, plus fort, et puis il est chargé de dire ta mère, au moment de l'Œdipe de l'enfant, 3-7 ans, ta mère c'est ma femme à moi. Tu parles pas comme ça à ta mère, le mieux quand même de dire tu parles pas comme ça à ma femme. Le père, il est celui qui oriente vers la vie sociale, qui oriente vers le monde extérieur. La mère est celle qui oriente, de par son fonctionnement hormonal, hein, que ce soit la progestérone qui lui permet d'être mère, la progestérone qui lui permet d'être mère, les œstrogènes qui lui permettent d'être femme, c'est vrai, j'ai pas dit de bêtises ? Non, mais je m'adressais à notre biologie tout d'un coup, il y a des moments où j'ai des absences à ce traitement, mais c'est vrai que elle perd ça, c'est-à-dire qu'on la met sous, on la rend l'égale de l'homme, mais on lui fait perdre tout ce charisme, qui est un charisme de sensibilité, un charisme d'intériorité et un charisme de tout ce qui est le rapport au temps qui est différent, puisque la femme n'est pas dans le moment présent. Donc, ce que dit l'Église, c'est que c'est important de ne pas séparer l'acte sexuel de la procréation, mais en même temps, de plus en plus, des mouvements chrétiens ont développé tout ce qu'on appelle les méthodes d'auto-observation. Alors, avec soit sur les urines, un recueil d'hormones, enfin, qui va donner le taux d'hormones au nez jour-là. Soit la méthode, il ne s'agit pas du tout des méthodes à l'ancienne, Eugino, on disait c'est tous les cycles pareils. Hein. Mais c'est soit la méthode Billings qui consiste à observer au vagin de la femme tous les matins quand elle se lève, elle observe sa glaire cervicale, puisque ce qui marque le moment avant la période de fécondation, je vous dis ça quand on n'est pas sous Billings, avant la période d'ovulation, il y a une période où il y a une petite perte de glaire qu'on repère parce que ça fait un petit peu quelque chose d'un tout petit peu collant dans le slip. Au moment où la femme approche de l'ovulation, elle a une glaire très abondante, comme du blanc d'œuf, et puis la glaire va s'épaissir au bout de 3 jours, s'épaissir pour se rendre improductive, puisqu'il y a peut-être eu fécondation, donc il y a eu un épaississement au niveau du col, et que la femme peut toujours constater le matin au réveil, avec simplement un toucher vaginal avant d'uriner. Donc ça, c'est des méthodes. Et puis il y a d'autres méthodes maintenant, où de plus en plus on fait des observations extrêmement précises. Quelle est la richesse de ces méthodes ? Car l'Église, elle a été extrêmement maladroite et injuste, parce que les pauvres couples, on ne peut pas avoir 15 enfants ou 20 enfants par couple. On est dans la folie. Et il faut avoir tous les enfants que notre générosité nous permet d'accueillir. Eh bien, il y en a ces 2, il y en a ces 3, il y en a ces 5, il y en a ces 8, il y en a ces 10. Mais bon, on va s'arrêter là. Mais en même temps, l'Église rappelle que nos corps sont faits pour aimer et que c'est important de ne pas séparer la procréation, le plaisir et la communion. Donc de plus en plus, l'Église a pris conscience de toutes les, je dirais, de toutes les maladresses psychologiques, de la nécessité de réintroduire le plaisir. Et c'est pour ça que ces livres sont très très bien faits, vraiment. Moi, je me régale, je suis en train de lire chapitre par chapitre, parce que je travaille avec des collègues sur le mariage selon Jean-Paul II. C'est passionnant de voir comment est fait l'éloge du plaisir. Mais ce qui est très intéressant par rapport à la connaissance de soi, à la maîtrise de soi, c'est que le couple peut se dire « nous voulons des enfants ». Donc le couple peut utiliser ces méthodes parce qu'ils ont du mal à en avoir, ou au contraire parce qu'ils veulent espacer les grossesses et que c'est un moment où ils se disent « on n'est pas disponible pour les enfants ». Et le mari a sa part, parce que vous voyez, ce qu'on voit beaucoup arriver, c'est que la coutume, c'est que la femme soit sous pilule et on arrête la pilule au moment où on se dit « on veut un enfant ». Et là, quelque part, il y a quelque chose qui fait que, bon, on n'en parle plus, c'est un sujet, ma femme prend la pilule. Et puis, voilà, c'est une habitude, c'est une... Alors, je ne vous parle pas des méfaits possibles, moi, j'en suis convaincue, hein, des méfaits de la pilule dans les cancers gynécaux et du sein, mais en particulier quand on est fumeur. Mais c'est vrai que l'intérêt de toutes ces méthodes, c'est que le couple en parle. C'est-à-dire que le matin, ils en parlent tous les deux. Monsieur part au boulot. Il ne va pas gambetter toute la journée sur le fait, selon s'ils veulent avoir une union sexuelle ou s'ils ne veulent pas. Ils vont être au clair. Et leur journée va se passer dans cette orientation de savoir, ben, ce soir, on a une relation amoureuse, ou ben non, c'est pendant 3 jours, 4 jours, voilà, on évite d'avoir une relation sexuelle parce qu'on n'est pas prêt à avoir un enfant. Donc c'est un délai très court, hein, le délai de fécondité de la femme. C'est un délai... 3 jours, 4 jours, bon, alors quelquefois on peut envisager une semaine au cas où il y aurait des spermatozoïdes qui dureraient un peu plus longtemps ou d'autres qui se planqueraient un peu dans la trompe. La fécondation a lieu dans le tiers extérieur de la trompe. Donc les spermatozoïdes, de façon comme ça, c'est les plus robustes et les plus rapides qui arrivent. Hein. C'est pour ça que ça peut être facilement des garçons au moment de l'ovulation. Et pour avoir des filles, il vaut mieux être un peu à distance de l'ovulation parce qu'elles sont plus lentes, mais elles tiennent plus longtemps. Donc voilà, ça se, je vous le dis en riant, mais pour des couples qui ont quelquefois 1, 2, 3 garçons, ils sont bien contents d'avoir une fille après. Hein. Donc voilà, il y a ça, il y a un petit dessin qu'on ne vous a pas fait, après la parole est à vous. Est-ce que ça a quand même répondu un peu à ta question, même si on ne peut pas aller jusqu'au bout et davantage?
Une bonne partie.
D'accord, un petit peu, bon. Hein, je suis désolée, on essaie de bien s'adapter dans un temps qui nous est quand même... J'ai pas la force d'arriver à frotter du truc. Excuse-moi. On va juste vous faire un petit schéma qui rappelle que le... Ah ben non, on a fait tout le schéma, t'as raison, on a plus besoin. Non, on a plus besoin, donc la parole est à vous. Donc la parole est à vous. Donc, par rapport à vos demandes, je vais reprendre un petit peu tout ce qui était dit, partage, donc je vais commencer. Partage, plaisir, lien, connexion, communication, plaisir, complémentarité, communication. La communication, on en parle par les hommes, je crois que vous êtes au clair. Jouissance, bah, elle est légitime, puisqu'elle favorise le lien. Hein, donc elle est le plaisir et la puissance, c'est tout à fait légitime. Complément, besoin du corps, elle se domaine tabou. Alors, il y a juste une chose encore que je voulais dire, c'est que vous vous mariez, vous pensez être des adultes libres et détachés de ce que vous avez vécu enfant. En fait, à votre insu, vous avez des sacs à dos. Et dans les sacs à dos, il y a toute votre histoire d'enfant. Et il y a des choses qui reviendront au fil de votre histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si l'un des deux dans sa famille ont pratiqué beaucoup l'hospitalité et chez l'autre pas du tout, vous pourrez trouver qu'il y en a un vraiment qui abuse, mais vous vous en rendrez pas compte au début. Mais ça peut être le sens de l'argent. Il y a des familles où l'argent, c'est fait pour le plaisir. Je pense à un couple, pour elle, l'argent, c'est fait pour le plaisir. Il se trouve qu'elle en a pas mal, donc ça aide. Et lui, l'argent, ça doit être mis de côté, au cas où, protégé, pas dépensé, comme ils travaillent tous les deux. Mais voyez, ça donne comme résultat que madame, elle offre des séjours de ski dispendieux à ses enfants en permanence, elle offre des tas de choses, et que ça met son mari dans une colère. Non, mais comme elle a de quoi payer, elle paye. Donc, ils évitent la communication. Vous voyez, c'est comme pour la sexualité. C'est un fait acquis.
Pour ça, vous pouvez faire un exercice en couple. Hein, vous gagnez 50 000 euros.
Ah oui, ça c'est amusant.
Et en fait...
Qu'est-ce que j'en fais?
Qu'est-ce que
chacun
j'en fais?
Chacun des deux dit, je joue au loto, je gagne 50 000 euros.
Qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que je pense que l'autre en fera? Donc vous faites votre copie, puis après vous échangez.
On avait été très surpris, on avait fait ça à un groupe. Très surprenant.
C'est bien, ça vous permet de... Ben voilà, ça permet de découvrir un petit peu... et de comprendre quelquefois la réaction de l'autre sur telle
chose. Vous voyez, vous avez embarqué des valeurs, il y a des familles, par exemple, à Noël, c'est une fête de famille, on est quand on soit, et d'autres familles, pour qui Noël, on ne peut pas laisser des gens tout seuls à la fête de Noël ou au 1er janvier, donc on invite largement, la table est ouverte et la famille est formée à l'hospitalité. Il y a des familles, voilà. Mais n'empêche que dans vos sacs à dos, vous avez tout ça. Donc ces occasions de voir s'asseoir, ces sorties, c'est l'occasion de parler de ça. Parce qu'au début, ça vous paraît banal. Et puis, je vous assure qu'au bout de 15 ou 20 ans, ça peut horripiler. Moi, je peux vous donner un exemple bourneau d'un truc que j'ai découvert il y a quoi, 10 ans, simplement. J'ai accepté il n'y a qu'une dizaine d'années. Moi, j'étais d'une famille où la porte était toujours ouverte. C'est-à-dire que toutes les personnes seules étaient accueillies, toutes les bandes de copains À un moment, ma mère a quand même dit, écoute, achetez du jambon quand même, parce que je ne peux pas nourrir la terre entière. Mais la maison était extrêmement ouverte. Et dans la famille de Philippe, et puis alors, ça parlait, les portes claquées, on s'engueulait. Je suis du midi. Enfin, ma famille, ma mère était du midi, ben, j'étais du midi. Et dans la famille de Philippe, il n'y avait jamais d'invitation à dîner. Il n'y avait pas d'amis qui venaient dîner.
Si, ça, c'était...
C'est toi qui disais ça.
Non, mais il y a beaucoup moins.
Voilà. Et puis, si il y avait un sourcil de foncé, ça voulait tout dire. Quoi. Il n'y avait jamais d'échange de fond. Nous, y ouvrir en permanence, on parlait de tout, on s'engueulait, on se... Mais c'était une famille très vivante. Et moi, j'avais l'habitude, quand les gens téléphonaient, est-ce qu'on peut venir coucher chez vous deux jours, ou tiens, on ne viendrait pas, ah ben tiens, on va dîner, aucun problème. Je disais toujours oui. Et puis, à un moment, j'ai fait un... On a fait tout un... Je ne sais pas si on a lu, c'est pas parce qu'on a lu le livre sur les langages de l'amour. C'est pas ça. Mais en tout cas, j'ai découvert une chose... C'est que Philippe, en fait, il vivait comme des intrusions, le fait qu'il y ait des personnes qui viennent à la maison. Et moi, pour tout vous dire, je ne pensais même pas à lui demander. Je pensais qu'il était comme moi. C'est-à-dire qu'il était content qu'on pratique l'hospitalité à bras ouverts. Que pour moi, c'était tellement normal. Il ne pouvait pas être autrement. Il était généreux. Et s'il voulait autrement, je lui disais, écoute, t'es un peu ras, là, quand t'es... C'est quand même normal, on ne va pas laisser tout seul. Et en fait, alors mes neveux demandaient à venir passer une année scolaire parce qu'ils étaient en fac. Vous imaginez pas, quand j'ai dit oui sans l'avoir demandé, on avait deux chambres de libre, c'était pas un problème. Mais j'ai pris conscience que vraiment, pour Philippe, c'était une blessure d'intrusion. Par rapport à ce qu'il avait vécu, c'était insoutenable. Donc qu'est-ce que j'ai appris à faire? À penser, à en parler avec Philippe, à lui demander « Mais qu'est-ce que t'en penserais si ?» J'ai compris que je prenais plus de 9 heures à l'année. Donc, j'ai vraiment pris du temps. Et puis, s'il y a un truc qui me tenait vraiment à cœur, lui en parler. Et lui a fait l'inverse, c'est-à-dire que il y a des moments où il accueille extrêmement gentiment en disant « Écoute, ça ne me fait pas vraiment plaisir, mais je me rends compte que c'est important de le faire. » Et j'entends que ça lui pèse, mais qu'il le fait pour l'amour de moi. Mais vous voyez, c'est une autre chose que d'un... Mais j'ai mis très longtemps à comprendre ça, parce que je me disais, mais on ne peut pas être chrétien et ne pas avoir la porte toujours ouverte. Et comme on était chrétiens, qu'on priait ensemble et tout, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc vous voyez, ça peut être... On a pu embarquer des foutus sacs et pas penser que ça peut créer... Et j'ai mis du temps à réaliser que ça se répétait, la situation. Ça serait, c'est au moment où les neveux ont commencé à venir un peu plus souvent. Hein, habiter, j'ai pris du temps, mais maintenant Philippe m'a mis en garde en disant, écoute, non, un tel, moi, c'est un cauchemar. Donc je ne veux même pas qu'il vienne une semaine. Bon, pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, mais donc voilà, donc je sais aussi maintenant repérer ce que Philippe pourrait supporter, ne pas supporter, lui. Fait des efforts, mais on a mis très longtemps, et ça a été l'occasion souvent de clash entre nous, répéter sans faire le lien avec moi, j'avais besoin de lien social avec ma porte ouverte, et lui est un peu solitaire, il aime le bateau, il ne vous l'a pas dit, c'est ma dernière phrase, et c'est un solitaire, il n'a pas tellement besoin de liens sociaux, il s'en passe très bien, il a sa famille, ça lui suffit, bon, il m'a trop à faire. Mais ça lui suffit. Donc voilà, on s'arrête là, mais vraiment envisager de parler de la régulation des naissances, de la contraception, d'un enfant handicapé, de la stérilité, de l'éventualité d'adopter. Tout ça, c'est fondamental par rapport à la sexualité que vous en parlez. Hein? Est-ce que... Voilà. Voilà, alors à vous de réagir sur, voilà, qu'est-ce qui, je crois que c'est bien, on va refaire un tour de table, on va commencer dans l'autre sens pour pas que les mêmes se sentent, un tour de table sur soit ce qui vous a touché, soit ce qui vous a déplu, soit ce qui vous a interpellé, centrez-vous très libre, soit comment vous vous sentez, ça peut être je me sens avec deux adjectifs, vous voyez. Je me sens agacé, ou je me sens serein, ou je me sens fatigué et tendu, ou je me sens... Voilà. Donc, on vous propose de faire ça. Pour nous, c'est un éclairage. D'abord, pour vous, ça vous permet d'enraciner ce que vous avez entendu, de sentir comment vous êtes là, comment vous êtes émotionnellement. Et puis, ça nous aide à nous ajuster ben, à vos attentes, même si on a quand même essayé, ne croyez pas qu'on a fait au pif tout ce qu'on vous a dit. C'est pour ça que j'ai dit ouvert, c'est pas pas de donner nos papiers, c'est jamais la même chose qu'on dit. Donc, de toute façon, c'est mieux que vous ayez entendu. Et puis, vous pourrez l'écouter, puisqu'on a découvert qu'à notre insu, il a mis ça sur un site, et que donc toutes les sessions étaient écoutables. Il y avait tout qui ne savait pas. Donc, est-ce que tu veux bien commencer? Alors, on y va.
Moi, je me sens confortée dans mon couple, hein, après vous avoir écouté. Ça a fait écho.
D'accord, confortée dans ton couple, écho. D'accord, merci.
Moi, je me sens un peu enrichie par ce que vous avez dit, parce qu'il y a des choses que j'avais le sentiment de faire, mais pas forcément exactement, des choses qui me manquaient et que j'ai vu dans ce que j'ai fait.
D'accord, merci. Enrichi. Ensuite.
Moi, je me sens aussi un petit peu confortée. Vous avez parlé des langages de l'amour de Chapman, qui est un bouquin que...
Qui est un bouquin très intéressant à lire aussi.
On retrouve pas mal de...
Les langages de l'amour de Chapman, qui est un conseiller conjugal américain.
On retrouve pas mal de choses que vous avez essayé de développer. Effectivement, quand on arrive à comprendre que l'autre ne parle pas forcément la même langue que nous, alors c'est plus simple quand c'est dans des couples qui ne parlent pas vraiment la même langue, c'est plus facile.
Oui.
Mais nous, enfin, par exemple un couple franco-français, on a tendance à ne pas faire attention au langage de l'autre.
Oui.
Et ça c'était très important, vous l'avez bien noté, parce qu'on a, d'entendre l'autre et de prendre des temps justement pour pouvoir discuter. Et je me sens aussi un peu gêné, surtout pour tout ce qui était discours sur... tout ce qui était contraception, moi je suis sage-femme hein, à la base, donc pour moi il y a une ambivalence sur ce point-là, parce que je travaille dans un milieu assez difficile, dans la Seine-Saint-Denis, je pense que pour certaines patientes, effectivement, je conseillerais la contraception. Voilà. Donc, c'est comme toute chose, deux poids, deux mesures pour chaque chose.
Je n'ai pas parlé de tout, c'est la contraception hormonale.
Exactement. Mais voilà, il y a un petit peu de tout, il y a des choses à prendre, et puis je peux me retrouver un petit peu en ambiance.
Oui, il y a des couples où c'est une espèce de légitime défense, absolument. Mais pourquoi je vous ai dit ça, c'est parce que ce qui est génial, c'est quand les deux membres du couple se sentent responsables de la fécondité du couple. Voilà, qu'il n'y en a pas un des deux. Ça pourrait être un autre type de couple où lui prend toujours un préservatif et elle ne s'occupe de rien. Et ça serait de la même façon. L'un est figé dans une fonction et pas l'autre. Donc à ce moment-là, on peut devenir objet de jouissance sans être sujet. Donc ce qui est très intéressant dans toutes les approches naturelles, c'est qu'on est tous les deux sujets parce qu'on est obligé d'en parler tous les jours.
Bien voilà. Proposé à ce
Mais j'entends bien la gêne.
La contraception masculine, qui est aussi une façon d'être.
Ok, merci.
Moi, ce que je retiens, en fait, c'est effectivement le besoin de s'écouter. Je disais justement, il y a une heure à Jonath, on va tous les deux déménager à La Réunion, après 12 ans passés ici, et on va revenir dans nos familles respectives. Et c'est vrai que c'était important pour nous, qu'on discute aussi beaucoup sur ce nouveau mouvement et justement le fait qu'on n'ait plus des enfants, on n'est pas chez papa-maman, et qu'on va devoir recréer une vie à deux, et que justement ce besoin de communication est très important, de s'asseoir et de devoir parler. Et c'est aussi une vie différente de celle qu'on a vécue avant.
Merci.
Moi je me sens très... très instruit par rapport à ce que vous avez dit. J'ai eu plein de réponses à des interrogations que je pouvais avoir et que je pense que Dany avait aussi. Ça a fait un écho à une valeur qui est fondamentale qu'on a développée tous les deux, qui est celle du respect, qui est un mot-clé qu'on a complètement oublié de citer en fait en début de séance.
Mais on parle un peu plus fort, pardon.
J'ai l'impression que tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez dit en fait fait écho à une notion de respect mutuel.
D'accord.
Qui est un mot-clé qu'on n'a pas abordé en début de séance, mais auquel je pense, qui finalement j'ai l'impression est une notion centrale en fait dans tout ce que vous avez dit. Et du coup, voilà, ça a fait écho aussi.
D'accord, merci. Donc, très instruit, respect mutuel, écho. Tu as pensé à changer toutes les lignes ou trucs ?
Oui, c'est bon.
C'est trop tard.
Trop tard.